Nous arrivons au chapitre 7 de l'Évangile de la grâce, la façon dont on appelle quelquefois l'Épître aux Romains, la lettre de Paul aux Romains. Donc je vous invite à vous y tourner, page 1273 dans la Bible, second 21, qui est disponible si vous n'en avez pas. Une Bible de prêt qu'on vous invite à, avec laquelle on vous invite à suivre le message, pour vous montrer que ce n'est pas des choses que j'invente au gré des semaines, au fur et à mesure, mais que ce sont des choses qui sont inscrites dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce chapitre parle de la relation du croyant avec la loi. Dans le chapitre 6, on a entamé une nouvelle partie de l'épître, de la lettre de Paul. On a rappelé que Paul nous avait montré que nous étions tous des pécheurs qui méritions la mort à cause justement de ce péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous étions déclarés justes. C'était dans les chapitres 3, à la fin du chapitre 3 et jusqu'au chapitre 5, ce qu'on appelle la justification, le fait que Dieu, sur la base de notre foi en Jésus-Christ et son sacrifice, nous accepte comme si nous n'avions jamais péché. Nous qui, malheureusement, sommes des hommes qui vivons dans le péché, des hommes et des femmes qui vivons dans le péché, c'est quelque chose que nous avons du mal à admettre. Le fait d'être déclaré juste simplement sur la base de la foi. Et pourtant, c'est la vérité. J'ai dit que Jésus, comme un pêcheur d'âme, il attrape d'abord le poisson avant de le nettoyer. C'est une façon un peu triviale de déclarer une chose. Il nous attrape, nous déclare juste, et après commence à nettoyer le poisson, à nous nettoyer, à nous transformer. Et c'est justement le processus qu'on appelle la sanctification. Et c'est là qu'il a, dans les chapitres 6, 7 et 8, qu'il va nous expliquer ce qu'est cette sanctification. On a dit que la justification, c'était une substitution. Christ mourait à ma place. C'était un événement instantané. C'était la naissance spirituelle et la punition du péché qui est la mort était écartée de nous. Alléluia. À partir du chapitre 6, donc, on parle de sanctification, qui est une identification qui nous dit que nous sommes morts avec Christ et nous sommes progressivement rendus juste, nous sommes progressivement rendus saints. Alors ça ne veut pas dire qu'on va avoir une statue et qu'on va brûler des petites bougies devant nous. Ça veut dire que nous sommes mis à part pour Dieu et que de plus en plus nous allons ressembler à son Fils Jésus-Christ. Et c'est un processus qui est progressif, c'est pas comme la justification quelque chose d'instantané, ça dure toute une vie. La justification avait enlevé la punition du péché, la sanctification enlève la tyrannie du péché. Dieu veut nous faire comprendre qu'on n'est plus obligé de pécher, qu'on peut dire non au péché. Ça, c'est aussi quelque chose de merveilleux. Il n'y a plus de fatalité à tomber dans le péché, à répéter les mêmes péchés jour après jour ou régulièrement. Non, on peut dire non au péché. On a cette puissance qui nous est impartie et qui nous permet de dire non. Dans le chapitre 6, Paul a décrit notre relation avec le péché. Le péché veut nous rendre esclaves et nous faire honte, et ça se termine par la mort. Il nous montre comment arrêter de faire ces mauvaises choses. Il nous dit de connaître, de considérer et de livrer, dans le chapitre 6. Connaître des faits, nous sommes morts au péché. Nous sommes unis à Christ dans sa mort et sa résurrection. Il ne dit pas malheureusement que le péché est mort en nous, mais il dit nous sommes morts à la puissance du péché. Et puis, il nous dit de considérer, de réaliser, de mettre sur notre compte spirituel le fait que nous sommes morts au péché et vivants à Dieu. Et la conséquence, c'est que nous devons et nous pouvons nous livrer nous-mêmes à Dieu, au lieu d'être esclaves du péché, devenir esclaves de la justice et livrer nos corps, nos membres, nos facultés, nos ressources à, comme armes pour la justice, ce qui est juste devant Dieu. Dans le chapitre 7 que nous allons entamer en lisant un peu, Paul va nous dire comment ne pas faire de bonnes choses. Pas pour nous encourager à ne pas faire ces bonnes choses, mais pour nous montrer pourquoi on fait ces mauvaises choses. Si nous essayons encore une fois de gagner notre salut, notre acceptation de Dieu en suivant la loi, en essayant de plaire à Dieu en vivant sous la loi, en essayant de mener une vie entre guillemets sainte, alors, sur la base d'un idéal moral élevé, alors il faut que nous comprenions, il faut que nous sachions que c'est voué à l'échec. C'est quelque chose qui doit être annoncé autour de nous, dont on doit être convaincu nous-mêmes, parce que c'est radicalement de ce que le cœur de l'homme attend. Les religions traditionnelles, tout autant qu'elles soient, elles nous disent, si vous suivez ce code de bonne conduite, alors Dieu finira par vous accepter. Mais on n'est jamais sûr de ça. Parce que combien bon faut-il être pour que ça plaise à Dieu ? Est-ce que si je suis bon jusque-là, mais que je retombe un peu, est-ce que ça y est, c'est fini pour moi, ou est-ce qu'il faut que je continue ? Et ça, c'est pas une façon de vivre. C'est pas drôle de vivre toujours en essayant de faire des bonnes choses pour gagner l'acceptation divine. Non, il va nous montrer comment notre relation avec la loi. Et on va voir trois parties dans ce chapitre 7. Les premiers versets qu'on va lire maintenant, 1 à 6, c'est comment être libéré de la loi. On verra peut-être versets 7 à 13 qui nous explique que la loi ne peut pas nous sauver. Et puis versets 14 à 25, la fin du chapitre 7, la loi ne peut pas nous sanctifier. On a vu que à la fin du chapitre 6, ou plutôt verset 14, Paul déclarait « Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Et puis il nous a dit, en fait, il y a une liberté qui est réellement une servitude, c'est quand on est esclave au péché, ça entraîne la mort. Par contre, il y a une servitude qui est réellement liberté, c'est l'esclavage à la justice qui conduit à la vie éternelle. Qu'est-ce que la loi ? On va parler ici, on va lire d'abord les versets 1 à 6. Je lis dans la version second 21, et je vais vous demander de vous lever pour vous réveiller, et par respect pour la parole. Versets 1 à 6, et puis on va enchaîner jusqu'au verset 13. Ignorez-vous donc, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liée à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre, celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Ça va pas la tête ? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise, si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans la loi, le péché est mort. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi ? Ça va pas la tête ? Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et ainsi par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Nous allons nous arrêter là et vous pouvez vous asseoir. Amen. À cette parole de Dieu. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons... Pardon, je me trompe de chapitre, c'est le début du chapitre 5. Ignorez-vous, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. La traduction en français, dans cette version, parle de la loi... Et on pourrait penser que c'est la loi de Dieu déclarée dans les 10 commandements. Et en fait, c'est la loi de Dieu, c'est l'ensemble des commandements de l'Ancien Testament qui sont résumés dans les 10 commandements par les 5 premiers livres, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le livre des Nombres, le Deutéronome. C'est ce qu'on appelait la loi, et on ajoutait les prophètes dans l'Ancien Testament pour avoir les écritures de l'époque. Mais la loi, c'est tout principe qui nous contraint à vivre d'une certaine façon. C'était la loi de l'Ancien Testament, c'était aussi la loi romaine. Aujourd'hui, ce sont tous les règlements. Ça peut être pour vous-même des règles de conduite que vous vous fixez. On arrive bientôt à la fin de l'année. On va célébrer ça souvent en mangeant plus qu'il n'est bon. Et entre les réveillons de Noël, du jour de l'an, arrive le premier de l'an. Et avec ce premier jour de la nouvelle année, notre vieille nature va établir des résolutions pour la nouvelle année. Ces résolutions, ça sera un peu notre loi de vie pour la nouvelle année. Et on en reparlera peut-être le 10 janvier, le 15 janvier, à la fin du mois de janvier. Et ces bonnes résolutions qu'on aura prises, on remarquera sans doute qu'on n'a pas eu la puissance interne de les respecter. Faire du sport, ne manger que des choses saines et bio, lire notre Bible tous les jours en prenant une heure de dévotion, c'est notre prière à tous, et avec l'aide de Dieu, on peut demander ces choses. Mais si on compte sur la loi, sur les résolutions en elles-mêmes, elles n'auront aucune puissance pour nous aider à les respecter. Paul nous dit qu'il parle à ceux qui connaissent la loi. Donc on peut penser qu'il pense aux Juifs qui sont sous la loi, les 10 commandements et les commandements de l'Ancien Testament. Mais encore une fois, c'est transposable à nous tous, à tous les hommes qui veulent respecter un code de conduite pour avoir à leurs yeux même des fois une plus grande valeur ou avoir le sentiment d'être acceptable, d'être quelqu'un de bien. Et il va utiliser, après avoir utilisé d'autres illustrations, Paul est compliqué à lire, à comprendre. L'apôtre Pierre le disait lui-même, notre cher frère Paul, qui dit des choses profondes, qui sont des fois difficiles à comprendre, mais qui sont la vérité. Il a utilisé des différentes illustrations. Il a parlé d'agriculture, le fait qu'on était greffé sur Dieu, il a parlé de l'esclavage et il parle maintenant du mariage comme une illustration. C'est intéressant qu'il ait bien distingué l'esclavage et le mariage. C'est pas la même chose. Alléluia. Pour vous qui n'êtes pas mariés, qui aspirez à être mariés, pour vous qui êtes mariés et qui aspireriez peut-être à ne plus l'être, j'aime bien la remarque que faisait un pasteur. Il est plus facile, lorsqu'on est célibataire, de voir arriver et de rentrer dans le mariage que lorsque l'on est marié, de revenir en arrière. Ça, c'est juste un petit commentaire à part. Parce qu'en fait, ce passage où il dit que une femme est... La loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit, ça c'est quelque chose de compréhensible. Aujourd'hui, les gens à qui Johnny Hallyday devait de l'argent, ils vont plus aller embêter Johnny Hallyday. Ils vont peut-être embêter sa succession, ses héritiers. Mais lorsque vous mourrez, vous êtes libre de la loi. Alléluia. Dans un sens. Donc ça, c'est un principe de base. La mort met fin aux obligations de la loi. Et il parle de la femme mariée, et là il faut préciser une bonne fois pour toutes, c'est pas un passage qui parle du mariage, dans le sens que vous pouvez prendre des leçons pour vivre dans le mariage de façon plus harmonieuse ou plus riche ou plus en rapport avec la volonté de Dieu. La seule chose, c'est que si vous êtes marié, vous n'avez pas le droit de commettre l'adultère, c'est un péché. Dieu a horreur du divorce et toutes ces choses. Mais le but de Paul lorsqu'il parle de mariage, c'est juste d'utiliser une illustration. Il déclare donc dans cette illustration trois choses. On va relire verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liée à lui. Vous allez passer chez Chos, de la loi qui la liée à lui. Si donc, remarque purement française, si donc elle devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. Trois choses. Une femme est mariée à un homme. Elle est sous l'autorité de cet homme dans la loi judaïque. C'était très net. Dans la loi française et actuelle, maintenant il y a l'égalité des droits. Et c'est pour beaucoup de choses une bonne chose. Mais la femme est mariée à l'homme. L'homme meurt. La femme est libre d'épouser un autre homme. Lorsque vous prononcez des vœux de mariage, souvent les formules traditionnelles, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Paul donne aussi l'interprétation, l'application, qui a trois éléments. Les Juifs sont sous la contrainte de la loi. Nous, qui vivons sous des lois, nous sommes sous la contrainte de cette loi. Le verset 6, faisant une relation à la loi religieuse des Juifs. Maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. Ils sont libres maintenant d'être unis à un autre homme et l'idée de Paul, c'est de dire qu'ils sont libres et nous sommes libres, si nous sommes morts à la loi, d'être unis à un autre homme qui n'est autre que le Christ ressuscité. Si on identifie les personnages, je vous rappelle, la femme, c'est vous et moi. Dans Éphésiens 5, Paul va dire que le mariage est une illustration de la relation du croyant avec Jésus. Le premier mari, c'est qui ? Est-ce que c'est la loi ? La loi, pourtant, elle n'est pas morte, puisque nous savons la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme, elle donne du réconfort. Ça, c'est le psaume 19:8. Jésus disait que pas un iota, pas un trait de T ne disparaîtrait tant que toute la loi ne serait pas accomplie. Et donc, ça pose problème. Et si vous lisez les commentaires, vous allez être encore plus confus que je ne le suis déjà, que je vous rends déjà. La femme, c'est vous et moi. Le premier, en fait, c'est notre vieille nature. Romains 6:6, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. La mort, c'est la mort avec Christ. Le nouveau mari, c'est Jésus-Christ ressuscité. J'aime bien un commentateur moderne qui est encore vivant, Alfred Kuhn, qui dit « L'apôtre développe ici une pensée parallèle au chapitre 6. Là-bas, le chrétien mourait avec Christ au péché. Ici, il est mort à la loi. Puisque le Christ a subi en premier, en lieu et place du pécheur, le châtiment du péché, c'est-à-dire la mort, la loi n'a plus de prise sur le chrétien. Notons bien, ce n'est pas la loi qui est morte, qui est rendue caduque, c'est le chrétien qui, par-delà la mort, peut contracter une nouvelle union avec le Christ. Alors, je vais vous lire quelque chose qui vous semblait très théologique, mais après, je vous rassure, on va prendre une illustration qui va mettre les choses en place, je l'espère, de façon permanente. Un commentateur anglo-saxon, F.F. Bruce, disait « L'affranchissement à l'égard du péché, être libre du péché, et l'affranchissement à l'égard de la loi, être libre par rapport à la loi, constituaient deux choses étroitement liées dans l'expérience de Paul. Au chapitre 6, il s'était servi de l'image du lien qui existe entre l'esclave et le maître pour faire comprendre ce qu'était que l'affranchissement à l'égard du péché. Ici, il va utiliser le lien qui existe entre Marie et sa femme pour nous faire comprendre l'affranchissement à l'égard de la loi. Il résume, « La mort brise le lien conjugal, la mort rompt l'obligation de fidélité de l'homme envers la loi. » Et c'est là que ça devient un peu compliqué à suivre et à comprendre, c'est que quand Paul applique cette analogie à la relation homme-loi, il inverse les rôles. Si vous ne suivez pas, rassurez-vous, on va expliquer un peu, plus avec une illustration. Le croyant est comparé à la femme, la loi prend la place du mari, mais au lieu que ce soit le mari qui meurt, comme dans la comparaison avec le mariage, c'est le croyant qui meurt et non la loi. Le croyant est mort avec le Christ, et cependant c'est lui qui désormais dégagé de ses obligations envers la loi est libre de s'unir au Christ. Tant que l'homme est uni à la loi, il est incapable de produire des fruits de justice, mais dès qu'il est attaché au Christ, ses fruits abondent. Le péché et la mort étaient le résultat de la dépendance de l'homme vis-à-vis de la loi. La justification et la vie sont les fruits de la relation nouvelle du croyant avec le Christ. La première fois que j'ai lu ça, et c'est la première fois que vous le découvrez, j'ai dit « j'ai rien compris ». Rassurez-vous, quelqu'un, un pasteur que je connais, John Corson, a une très belle allégorie. Il a, si je retrouve son texte, il nous dit encore une fois, n'allons pas croire que la loi soit mauvaise. Paul nous dit au verset 12, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Et voilà son illustration. Imaginez que vous êtes marié à Monsieur la Loi. C'est un mariage intéressant. Vous avez célébré en grande pompe et vous vous retrouvez le lendemain matin. Vous vous réveillez et à côté de vous, il y a Monsieur la Loi. Son surnom, c'est Monsieur Parfait. Monsieur la Loi, il est parfait. Il est déjà réveillé. Il a le sourire. Ses yeux sont grands ouverts. Ses beaux yeux bleus sont grands ouverts. Son haleine, la santé, est fraîche comme de la menthe pure. Pas un cheveu n'est décoiffé sur sa tête. Même ses pyjamas sont encore parfaitement repassés avec un pli parfait comme s'ils étaient tout neufs. Son côté du lit est parfaitement droit. Et ses draps ne sont même pas froissés. Il saute du lit avec un grand bonjour et le sourire sur ses lèvres. Il va directement dans la cuisine. Là, il se prépare un petit déjeuner parfaitement sain, parfaitement équilibré et nutritif. Rappelez-vous, avec lui, tout est parfait. Monsieur Laloi est parfait. Pas de café, un excitant. Pas de croissant ni de beurre. Attention au cholestérol. Non, il prépare deux tranches de pain complet avec de la margarine sans cholestérol. Et un bol de germe de blé. Il est parfait. Il ne fait pas de miettes. Pas une seule miette tombe sur la table. Il porte ses couverts jusqu'à l'évier où il les lave et les rince systématiquement pour pas que des taches viennent souiller l'inox en séchant dessus. Il se rend ensuite dans la salle de bain où il prend sa douche parfaite. Il se prépare pour partir au travail. Il met son costume, qui lui aussi est parfaitement pressé, sa chemise parfaitement amidonnée. Il noue sa cravate avec un double nœud et le bout de la cravate arrive parfaitement là où il doit arriver, juste sur la boucle de la ceinture. Il le fait d'un seul coup. Pour le mariage, j'ai dû faire 10 fois refaire le nœud de ma cravate pour qu'elle ait la bonne longueur. Il ne rate aucune des boucles de sa ceinture en mettant son pantalon. Il se dirige vers la porte et avant de sortir, il vous fait une bise parfaite sur les deux joues. Il part en voiture en respectant le code de la route scrupuleusement. Pas un excès de vitesse, il s'arrête pour les piétons. Il arrive au travail à 8 heures précises. Pas à 7h59 ou 8h01, non, à 8h précises. Et il se met au travail avec sa liste de tâches qu'il va accomplir parfaitement, il va réussir à accomplir tous les objectifs de sa journée. Et il repart de son travail exactement à 17h. Pas à 16h59 ou 17h01, non, à 17h. Rappelez-vous, c'est monsieur parfait. En revenant à la maison, il vous fait une bise parfaite sur les joues. Votre mari, monsieur Laloi, monsieur parfait, est de retour à la maison. Il commence à s'acquitter de ses tâches systématiquement. Il le fait parfaitement, ses corvées. Et vous vous dites, qu'est-ce que je suis verni? J'ai vraiment été béni par Dieu, j'ai épousé l'homme parfait. Mais quelque chose d'intéressant est intervenu. Vous avez remarqué, quand il est rentré, il a passé la porte d'entrée, qu'il vous avait regardé, mais que sur son visage, il y avait eu un petit air étonné, un peu surpris. Il a froncé une fraction de seconde les sourcils parce qu'il a remarqué que vous aviez une mèche déplacée dans votre coiffure, pourtant sur laquelle vous aviez travaillé. Et puis, en entrant dans la cuisine, étant donné qu'il mesure un parfait 1m90, je crois que Pedro m'a dit qu'il arrive à 1m97 ce matin, il remarque au-dessus du réfrigérateur, où vous ne pouvez pas voir, que vous avez laissé de la poussière et une grimace a assombri son visage. Remarquant que c'est bientôt l'heure du dîner, il va se brosser les dents dans la salle de bain, parce qu'il se brosse toujours les dents avant et après chaque repas. Et là, il est un peu dégoûté, parce qu'il remarque que le tube de dentifrice est écrasé au milieu, au lieu d'être soigneusement roulé depuis le bas vers le haut. Il vient s'installer pour le dîner. Vous avez travaillé dur toute la journée pour essayer de préparer le repas parfait pour votre mari parfait. Et là, tandis qu'il attend que la boisson servie, il prend un verre et le regarde avec une petite grimace. Vous n'avez pas utilisé myrrhe vaisselle et il y a des taches sur le verre. Il le repose. C'est un repas délicieux avec 6 plats. Mais il remarque sur la première entrée que le persil est légèrement flétri. Ça le déçoit et ça vous déçoit aussi beaucoup, ça vous consterne. Vous voyez, le problème, c'est qu'il est, il est parfait, mais le problème, c'est qu'il exige, de vous la perfection. Cela vous déprime. La pression monte. Vous ne pouvez jamais arriver à satisfaire cet homme parfait. Et vous vous dites, j'ai fait une erreur après tout. Je vais essayer d'aller divorcer. Votre avocat et vous allez voir le juge et vous lui dites, voilà, j'aimerais divorcer de monsieur la loi, monsieur parfait. Et il vous demande, et quel est le motif, la raison ? Le problème, voyez-vous, monsieur le juge, c'est qu'il est parfait. Vous voulez me dire que vous voulez divorcer sur la base de la perfection ? Désolé, ça ne marchera pas. C'est pas possible. La perfection n'est pas un motif recevable pour divorcer. Alors là, vous êtes vraiment déprimé, vous ne savez plus que faire. Vous savez que la seule façon d'être légalement libéré, si ce n'est pas le divorce, ça va être la mort de monsieur parfait. Alors vous vous dites, je vais mettre un peu d'arsenic dans son parfait jus d'orange. Mais là encore, il y a un problème. Monsieur Parfait est en parfaite santé. Ses reins fonctionnent parfaitement et filtrent le poison que vous lui voyez boire. Son corps est robuste. Ses reins marchent à la perfection. Il est plein de jeunesse, il est vigoureux, il ne vieillit jamais. La loi est en parfaite santé. Monsieur, la loi est parfaitement en forme. Vous réalisez que vous êtes vraiment prisonnière, vous tombez dans la déprime la plus profonde. Vous ne pouvez pas divorcer d'avec lui, vous ne pouvez même pas l'assassiner. De désespoir, vous sortez dehors, vous pleurez en vous demandant comment être libéré de cet idéal de perfection que vous n'arrivez pas à suivre. Il se trouve que c'est un matin glacial comme aujourd'hui. Il neige à Colomar. La pluie est froide à Nice. Et vous attrapez mal, vous vous refroidissez, vous rentrez à la maison, vous réalisez que votre corps est frigorifié, vous commencez à éternuer, votre température monte et la pneumonie s'empare de vos poumons. Et vous voyez que vous allez mourir et vous vous dites « Ah mais là voilà la solution, je vais mourir, je vais échapper à Monsieur Parfait. » C'est ce que Paul explique, verset 4. « De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité afin que nous portions des fruits pour Christ. » Monsieur la loi, monsieur parfait ne va pas mourir. Mais nous pouvons mourir en Christ. Nous sommes morts avec Christ. Si nous sommes unis avec lui dans sa mort, c'est ce que symbolise le baptême. Nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Notre vieille nature, elle est morte avec Christ. La loi, elle est parfaite. Les 10 commandements, c'est parfait. Mais je n'ai pas la puissance, elle ne me donne pas la puissance de la respecter, la loi. Vos résolutions de nouvelle année ne vont pas vous donner la capacité de les respecter. C'est ça le problème des bonnes résolutions. Par contre, si vous êtes mort à la loi, avec Christ, vous êtes mort à la loi. Et vous pouvez maintenant, en résurrection de vie, plaire à Dieu. Est-ce que ça vous aide un peu à comprendre que la loi, elle est bonne? Mais nous, le problème, c'est nous-mêmes. Notre vieille nature ne peut pas respecter la loi. Tous les gens qui essayent de suivre des religions, que ce soit le bouddhisme, l'islam ou toutes les autres, elles comptent sur la force de l'homme à respecter les préceptes, à faire les pèlerinages, à faire les règlements, les piliers de l'islam, à vivre en essayant de mériter quoi que ce soit. Arrêtez ! Mourez ! Mourez avec Christ. Considérez, c'est la vérité, que vous êtes mort avec lui lorsqu'il est mort. C'est une vérité spirituelle que l'on ne invisible, mais ça n'en est pas moins une réalité sur laquelle vous pouvez fonder votre vie. Et lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons en Christ. Monsieur parfait, monsieur la loi, vous lui dites au revoir en mourant, et en ressuscitant, vous allez vers un autre homme, monsieur l'amour. Que je t'aime, c'est lui qui l'a chanté le premier. Monsieur l'amour, il y a une grande différence entre les deux. Monsieur la loi, monsieur parfait, il vous dit que je t'aime, si tu fais ceci, si tu fais cela. Monsieur la loi, monsieur l'amour, lui, il vous aime et il vous accepte tel que vous êtes. Et il vous dit que je t'aime, point final. Monsieur la loi, il dit, je vais t'aimer si tu enlèves la poussière sur le frigo, si tu fais un repas parfait, si tu presses le tube de dentifrice par le bas, si tu fais tout selon mes petites règles. Jésus nous dit, je t'aime absolument, inconditionnellement. C'est ce mot agapé qui a dû être formé pour le Nouveau Testament. Et l'amour, lui, il couvre une multitude de péchés. Les tubes de dentifrice mal écrasés, les taches sur la vaisselle, vos péchés, mes péchés, tout ça, ils sont couverts par l'amour de Jésus. L'Ancien Testament s'occupait de toutes les règles extérieures. Mais le Seigneur a prophétisé qu'il allait faire quelque chose en nous, profondément. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Si Jésus est en nous, si nous sommes morts à la vieille nature, nous allons être capables de vivre en respectant les commandements. On ne va pas essayer de les remplir pour mériter son amour. Sachant qu'on est aimé, on va pouvoir vivre comme on veut, parce que c'est lui qui va inspirer la nouveauté de l'esprit, un nouveau cœur. Amen.